Voilà, lettre de Jacques, et nous sommes dans le premier chapitre encore. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en lisant et en méditant et en examinant les versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous regardons donc ces versets, versets 19 à 21. Et bon, il faut mettre un titre, alors j'ai intitulé cela « Sachez, recevez ». Donc Jacques, nous avons vu, est un bon pasteur. Il prend soin des brebis du Seigneur. Mais il ne le fait pas à l'aventure, si on pourrait dire. Il a un but en vue. Il écrit à des croyants qui traversent des difficultés, des épreuves. Mais remarquez-le bien, la nature et l'acuité des épreuves ne sont pas le souci de Jacques. Lui, il s'inquiète plutôt du fait que ces épreuves en sont venues à occuper toute la perspective de ses frères bien-aimés. Elles sont devenues des montagnes pour eux. Et c'est ça qui lui pose problème. Parce que Jacques sait qu'une telle situation conduit à se regarder comme une victime. Elle conduit à centrer la personne sur soi. Pourquoi est-ce que Dieu me fait cela à moi? Et ça conduit à paralyser la personne et à diminuer la force de sa relation avec Dieu. On est obnubilé par quelque chose d'autre. En conséquence, celui qui prend cette voie cesse, que ce soit soudain ou graduellement, il cesse de marcher selon Dieu et il tombe dans toutes sortes de travers. Jacques va adresser certains de ses problèmes dans l'Église et par suite, cette attitude endommage la vie communautaire de l'Église, ce qui entraîne à son tour toutes sortes de maux et de désordre dans l'Église. Et vous savez, comme je le sais, que c'est souvent le cas dans les assemblées. Et Jacques a vu où est la source de ça. Tout au moins une des sources, il y a des tas d'autres choses. C'est pour ça que nous avons tant de lettres dans le Nouveau Testament. Mais voilà Jacques qui écrit. Et donc pour remédier à cette situation, pour remédier au danger qu'il voit, dont il voit que ses frères sont menacés, Jacques recentre ou cherche à recentrer la perspective de ses frères. Ne regardez pas tant les épreuves, mes frères bien-aimés, mais regardez surtout ce que Dieu fait par les épreuves, dans les épreuves. Ne vous laissez pas obnubiler par votre condition dans la vie, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, mais voyez ce que Dieu a fait en vous, en vous adoptant dans sa famille. Il vous a élevé et vous, il vous a abaissé. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Regardez cela. Quand la pression est forte et que la pression est longue, ne vous trompez pas, mes chers frères, en pensant que Dieu est de la même nature que votre cœur déchu, ou même qu'il soit de la même nature que le diable. Ne dites pas, c'est Dieu qui me tente. Non. Dieu est tout bon, il est entièrement bon, il n'y a en lui que lumière, il n'y a pas d'ombre ni de variation, pas de ténèbres en lui. Et vous le savez, car il vous a donné une nouvelle vie qui annonce même cette nouvelle création qu'il prépare à la gloire de son Fils. Et Jacques, qui est un homme de liaison, nous l'avons vu, n'est-ce pas ? Continue à déplier son maître de chantier. On va continuer avec cette image, Quelqu'un m'a envoyé une image ou une vidéo d'un maître de chantier. Je ne sais pas si on peut la mettre dans les commentaires, mais peut-être Hans qui l'a peut la mettre. Mais voilà, le maître de chantier, ce maître qu'on déplie, on déplie et chaque segment est relié à l'autre par une articulation. Et Jacques vient de parler du fait de ne pas se tromper sur la nature de Dieu. Il vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés si nous sommes croyants. Jacques vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Et maintenant, il déploie le prochain segment de son maître autour de l'articulation « Sachez-le ! Sachez-le !» Et puis, il montre comment cette nouvelle vie, les prémices d'un ordre nouveau, les prémices d'une nouvelle création, il montre comment cette nouvelle vie se vit. Et toute cette section la court depuis le verset 19 jusqu'au verset 25. Et puis ensuite, il y a une sorte de résumé-conclusion. Mais le passage est trop riche pour le traverser à toute vitesse. Je pense que vous verrez vers la fin, on sera un peu pris par le temps. C'est pourquoi nous nous limiterons aujourd'hui au verset 19 à 21. Mais tout au long, mes amis, tout au long, gardons à l'esprit que Jacques vise à encourager une vie puissante dans une église centrée sur Dieu. C'est sa vision, c'est son but. Et nous venons à notre premier point qui va reprendre tout simplement les paroles « Sachez-le, sachez-le ». Jacques vient de, en quelque sorte, reprendre ses frères, comme il a dit, « bien-aimés de moi », en les exhortant de ne pas se tromper. Vous dites que Dieu me tente, vous vous trompez. Quittez cette voie. Et il vient de les reprendre. Et maintenant, il les encourage en disant « sachez-le ». Alors, dans l'original, ce verbe peut se comprendre soit à l'indicatif, comme s'il disait « vous savez et donc vous ferez ». Et il y a une dimension de cela. Mais on peut comprendre aussi le verbe « sachez-le » à l'impératif. « Sachez donc que parce qu'il en est ainsi, voici ce que vous devez faire. » Alors, il est très difficile de dire quelle est la lecture qu'il faut privilégier. Et il me semble qu'en fait, c'est plutôt un point de liaison que quelque chose qu'il faut mettre à droite ou à gauche. Mais comme je l'ai dit, il est clair que c'est une liaison entre le fait que Dieu a engendré le croyant au moyen de la parole de la vérité et la qualité de vie que possède cette nouvelle vie. Parce que c'est ce que Jacques veut dire. D'emblée, nous voyons que la vie de Dieu qu'il donne lors de la régénération, quand il engendre par sa parole et son esprit, cette vie qu'il donne n'est pas n'importe quelle vie. C'est une chose importante à souligner. En premier lieu, cette vie vit. Et cela peut sembler un peu ridicule de le dire, cela peut sembler un peu forcé, mais je ne le pense pas. En effet, dans notre génération, nous vivons dans une génération de spectateurs où tout est fourni pour le simple but de divertir ou d'occuper, de passer le temps. Certains même parlaient de tuer le temps. On n'a pas besoin de tuer le temps. Mais le résultat, c'est qu'on a tendance à laisser les choses se produire. Vous voulez être informé sur ce qui se passe dans ce monde, alors voilà, vous appuyez sur un bouton et paf, ça vous est fourni. On a tendance à laisser les choses se produire. Mais ce n'est pas vrai au sujet de la vie chrétienne. Ce n'est pas ainsi qu'elle se vit. Elle possède en elle-même une dynamique qui la pousse à s'exercer. La vie du croyant est une vie qui vit. Il y a une dynamique. Et on n'apprend pas seulement des informations au sujet des choses de Dieu, mais, comme Pierre l'exhorte, il faut ceindre les reins de notre entendement pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Et quand Pierre écrit ça, il fait très clairement référence au dernier repas que les Israélites ont pris en Égypte avant l'Exode. ce que Dieu a fait pour eux sous le couvert du sang répandu conduit à un départ de la maison de servitude en une marche longue et difficile vers la terre promise et au travers de ce désert, du désert de ce monde. Et bien entendu, ce sont des images. L'Israélite couvert par le sang n'est pas resté dans la maison où le sang était marqué sur les linteaux et sur le linteau et sur les poteaux. Non, il a ceint ses vêtements et il est parti. Et celui qui reçoit la vie de Dieu, il ne reste pas comme un spectateur. Il n'est pas habité par l'esprit de notre génération. Mais il vit. La vie, cette nouvelle vie, vit. Et bien sûr, cela nous pose la question à chacun d'entre nous. Cela nous met au défi. Est-ce que ma vie vit ? À vous de répondre. La vie que Dieu donne se manifeste aussi comme ayant la même nature que Dieu. Dieu ne peut pas donner une vie qui est d'une autre nature. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Dieu me tente ». Absolument pas. Avant d'examiner la vie, donc, comme le dit Jacques, il y a certaines choses qu'il faut écarter. Pourquoi ? Parce qu'elles nous gâchent la vie, parce que ça ne va pas selon notre idéal de vie. Non, il faut les écarter car elles ne cadrent pas avec qui est Dieu. C'est tout simple. Et pourtant, tellement difficile. Mais comment mettre cela en pratique ? Car nous l'avons dit, Jacques est très pratique. C'est ce que Jacques aborde maintenant. Mais avant d'examiner en détail, il faut préciser que Jacques n'est pas intéressé en premier lieu par une vie de simple moralité. Beaucoup de gens retirent cela de la parole de Dieu, et en particulier des passages que nous regardons actuellement. Mais la révélation de Dieu va plus loin, beaucoup plus loin. Jacques s'adresse à ses frères bien-aimés, à des croyants, à des gens qui sont aimés de Dieu, qui ont été transformés et qui aiment les frères. Et Jacques va beaucoup insister sur cet amour, comme nous avons vu dans le passage de Pierre que nous avons lu tout à l'heure. Et Jacques, il s'adresse à des frères bien-aimés et il le fait en tout premier lieu dans le cadre de l'Église et de la vie de l'Église. Alors bien entendu, les élans qui régissent cette vie communautaires ont un impact au niveau personnel et même au niveau sociétal. Il y a un côté moral, oui. Mais Jacques parle ici de ce qui doit animer chaque croyant dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Et c'est ce qu'il décide de faire. Donc, c'est pour ça qu'il s'adresse à ses frères. Sachez-le. Ne le mettez pas en oubli. Et donc maintenant, nous allons examiner ce qu'il dit. Et notre deuxième point s'intitule, alors vous allez comprendre pourquoi, « Prompt, lent, lent ». Je reprends pareillement le passage ici. « Ainsi que tout homme dans l'assemblée soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » « Prompt, lent, lent ». Jacques parle à ses frères. Et il parle à tous ses frères, que tout homme. Il n'y a personne dans l'assemblée qui n'est pas compris par, qui n'est pas inclus dans ces exhortations. Et dans l'Église, il n'y a pas de touristes. Quelqu'un avait fait un petit jeu de mots. Il n'y a que des rameurs. Il n'y a pas de ramiers. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de caste non plus dans l'assemblée des saints. Oh, combien nous aimons cela. Les Corinthiens se donnaient des partis. D'autres peuvent avoir la caste. Il y a les laïcs, il y a le clergé et tout ça. Non, dans l'Assemblée des Saints, il n'y a pas de caste. Il peut y avoir des degrés de maturité. Il y a certainement des fonctions différentes. Mais peut y avoir des degrés de maturité de sorte que la chute du frère plus mûr est plus frappante. Elle touche beaucoup plus, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Les grands élans qui animent les uns animent les autres du moment qu'ils sont frères. La même chair les habite, le même esprit les habite, et les mêmes luttes sont les leurs dans cette vie, dans ce monde hostile. Les élans de la chair dans laquelle ils sont encore, cette chair qu'ils possèdent encore, les élans de cette chair sont encore présents chez tous. Comme on a dit, à des degrés probablement divers, mais ils sont tous là. Et la puissance de la nouvelle vie est là aussi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Divers degrés, mais même nature. Et Jacques enjoint trois choses à ses frères. Et là, nous arrivons au premier sous-point. Prompt à écouter. Combien nous avons besoin de cela? C'est intéressant que, à cette époque-là, la seule manière d'avoir des informations, de découvrir d'autres choses, de grandir dans la connaissance, c'était d'écouter, parce que tout se passait pratiquement par oral. Mais combien nous avons besoin d'apprendre cela, et à tous les niveaux, dans tous les domaines? Vous me direz que c'est un peu superflu, car cela fait déjà un bon moment que vous êtes là à m'écouter. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, les réunions de l'Église, parce que nous parlons dans le cadre de la réunion de l'Église, la réunion, l'Assemblée, les réunions étaient différentes de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y avait plus de réactions congrégationnelles, on peut dire. Il y avait plus d'interactions de la part de chacun dans l'Assemblée. Il était courant pour celui qui parlait d'être interpellé, et parfois même interrompu par une question, par une remarque. Déjà dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que une telle manière de faire, qui en fait a été héritée d'un certain côté de la synagogue juive, mais on voit que cela conduisait, commençait déjà à conduire à certains débordements. Et Paul plusieurs fois doit rappeler les frères à l'ordre en disant de tout faire dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y avait des débordements, et c'est probablement ce qui a conduit de manière graduelle, à adopter le modèle que nous connaissons davantage, où il y a plus une présidence et puis une prédication et tout ça. Mais il y a là aussi des dangers, n'est-ce pas? D'autres dangers. Et c'est probablement ce qui conduit certains aujourd'hui à chercher à expérimenter d'autres formes de culte. Alors, qu'ils aient raison ou pas raison, ça c'est en dehors de notre domaine ce matin. Mais voilà, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'interactions. Mais c'est dans ce contexte-là que l'injonction de Jacques vient, que tout homme soit prompt à écouter. Quoi qu'il en soit, une marque de l'homme dans son état naturel est qu'il ne possède pas une inclinaison naturelle à écouter. Dans presque tous les domaines. Dans son état de péché, par nature, il est devenu le centre de référence. Comme nous avons vu tout à l'heure, s'il pouvait se faire Dieu, il se ferait Dieu. Il l'essaye. Donc, ce qu'il pense est ce qui prime. C'est tellement plus important que ce que les autres pensent, n'est-ce pas? Parce qu'il est quand même le centre. Peu importe même ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que je pense. En conséquence, il n'est pas prompt à écouter. Et cette attitude naturelle peut demeurer dans une certaine mesure chez le croyant. Examinez-vous vous-même. Or, celui qui n'écoute pas ne grandit pas. Tout ce que nous croyons ou pensons vient de ce qu'on entend. Alors vous allez me dire, ça vient de ce que je lis. Mais n'est-ce pas une manière d'entendre? Bien entendu que oui. Aujourd'hui, nous avons des tas de moyens d'obtenir des informations, mais il faut prêter attention. Toujours, il faut écouter. Voilà pourquoi il faut être prompt à écouter, surtout dans l'assemblée de l'Église. Cela permet d'être parfait, accompli, sans faillir en rien, comme a dit Jacques. Il écrit à ses frères afin qu'ils arrivent à cette maturité. Et la manière d'arriver à cette maturité où rien ne manque, il faut écouter. Il faut écouter. En outre, celui qui n'écoute pas se place au-dessus des autres. C'est à la fois un grand danger pour l'Église et contraire à l'esprit chrétien qui, normalement, considère les autres comme étant supérieurs à soi. On est lent à écouter, alors qu'il faut être prompt à écouter. Mais Jacques continue, et notre deuxième sous-point ici, il dit que tout homme soit lent à parler. Lent à parler. C'est cette seconde injonction de Jacques. Alors, bien entendu, celui qui est prompt à parler ne sera pas prêt à écouter. On voit la logique. Avez-vous remarqué combien nous commençons à parler même avant d'ouvrir la bouche? Si nous laissons l'autre finir sa phrase dans un dialogue, ce n'est que parce que nous sommes occupés à préparer notre réponse. En fait, dans notre tête, on a déjà commencé à parler. Et on n'entend pas, on n'écoute pas ce que l'autre a à dire. Même parfois, nous n'avons pas écouté ce qui est dit et notre réponse n'est pas une réponse à ce que l'autre a dit. Je publie de temps à autre des petits textes sur Facebook et il y a une chose qui me frappe. Dans les commentaires, dans les réactions, c'est comme si, en fait, il n'y avait pas eu de texte initial. Ce n'est pas une réaction au texte initial. C'est quelqu'un qui a la bonne gentillesse et la grande bonté de nous faire part de toute sa grande sagesse. Et souvent, cela n'a pas de lien, peut-être à part un mot, de lien avec le texte originel, vous voyez. Tellement courant. Et nous avons tous tendance, parce que nous sommes humains, et encore dans cette chair. Or, là encore, être lent à parler n'est pas naturel. Et vous vous connaissez comme je me connais, n'est-ce pas? Bien sûr. En effet, ce qui est en moi, mes convictions, mes opinions, est si important et utile pour tout le monde qu'il me faut le dire. Le moi est important. Et Jacques dit, ce ne devrait pas être le cas dans l'assemblée de l'Église. Et on en vient à ce qu'on appelle un dialogue de sourds, et bien souvent, ce n'est qu'un monologue d'insensés, des choses qui ne tiennent pas debout, une fois encore. Le moi est au centre, ce moi qui est si destructeur, et qui est prêt, si on lui laisse simplement la place, prêt à détruire l'Église de Dieu. Mais Jacques a une troisième injonction. C'est un troisième sous-point, que tout homme soit lent à se mettre en colère. La manière dont Jacques parle est étrange. On se serait attendu à ce qu'il dise tout homme soit prêt à rejeter toute colère. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est important de s'y arrêter. Aussi étrange que cela paraisse, il y a une place pour la colère. Quand vous voyez ce que le monde fait aujourd'hui aux choses saintes de Dieu, n'y a-t-il pas raison pour ressentir en soi cette colère légitime en faveur de l'honneur de celui que nous aimons? Bien sûr que si. Je suis sûr que vous avez tout de suite pensé à Jésus. Jésus qui chassait les marchands du temple. Et qu'est-il dit? Est-ce qu'il avait quelque chose contre le commerce? Pas directement, non. Non, parce que Jean nous dit qu'est-ce qui faisait que Jésus s'est mis en colère et a chassé ces marchands du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Donc voyez, il y a une place. Et allez dire aux marchands chassés que ce n'était pas vraiment de la colère, il faut le comprendre différemment. Non, ces gens-là, après, ils avaient certainement du mal à s'asseoir. Ou même, ils marchaient en boitant. Ils avaient senti l'acuité du fouet de Jésus. Où est la différence? Où est la différence entre une colère légitime, une colère qui a la place, et une colère qu'il faut rejeter? Et à la fois Jean et Jacques répondent. La colère du Seigneur se centrait sur la maison de Dieu. Elle se centrait sur l'honneur de Dieu. Elle se centrait sur le lieu où Dieu fait la paix. la maison de Dieu, une maison de prière. À l'opposé, dit Jacques, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut rendre cette phrase d'une manière plus précise, en fait. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ce que Dieu désire. La colère de Dieu ne produit pas ce que Dieu désire. Une fois encore, on voit que le centre de référence entre la colère de Jésus et celle de l'homme n'est pas le même centre. La colère de l'homme n'est pas en accord avec l'œuvre de Dieu en l'homme qu'il a touché de sa grâce. Elle ne correspond pas avec la nature de Dieu. Vous voyez ? Et donc, que l'homme soit lent, que tout homme soit lent à se mettre en colère. Le monde nous conseille de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Et c'est un conseil très judicieux, n'est-ce pas ? Dont nous comprenons souvent la propos trop tard. Eh bien, Jacques ici, en quelque sorte, il dit « Tournez 7 fois votre colère dans votre cœur et la source de cette colère avant de l'exprimer. » Vous qui êtes modestes et pauvres dans l'assemblée et qui êtes tentés à envier les riches, réfléchissez à la chose déjà. Et ainsi de suite, vous voyez. Non, si on peut dire « Tournez 7 fois votre colère et ce qui cause votre colère dans votre tête » avant de l'exprimer. Dans l'assemblée, il est si facile de passer des différences d'opinion à la colère. Ce qui mène à la colère exprimée, à la séparation au sein même du peuple que Dieu a uni en Christ, avec lequel Dieu s'est lui-même uni et qu'il a uni les uns avec les autres. Vous êtes frères et cette colère va mener à la séparation, déchirer ce que Dieu a uni. Et voilà pourquoi Jacques dit à ses frères, soyez prompts à écouter. Ne courez pas à tout de suite exprimer. Peut-être que les autres pensent que vous n'êtes pas très intelligent. Eh bien, ne leur donnez pas l'occasion de vérifier la chose. Non, soyez prompt à écouter. Et écouter, bien sûr, n'est pas simplement une fête d'écouter, mais à gagner, à être enrichi de ce qui est dit. Soyez lent à parler. Et plus tard, Jacques va même avoir une application plus spécifique en disant qu'il n'y en ait pas beaucoup qui parlent en public dans votre assemblée. Non, car il y a une responsabilité plus importante. Soyez lent à la colère. Car la colère n'est pas de la même nature que Dieu. Si colère il y a, que ce soit une colère qui soit en accord avec la nature de Dieu. Ce qui va nous calmer pas mal. Mais Jacques continue, et c'est notre troisième grand point, où il va nous donner 2 conseils, c'est même pas des conseils, non, c'est des préceptes en fait. Rejeter, recevez. C'est de façon à ce qu'on s'en rappelle, mais ce n'est pas tout à fait juste. Dieu nous a engendrés si nous sommes vraiment croyants. Il nous a donné la vie, une vie nouvelle, une vie spirituelle. Et il nous a donné la vie à vivre. Voilà en fait tout ce que Jacques dit. Ici, il nous dit « C'est pourquoi ». Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, il rebondit sur cette histoire de parole, mais aussi cette histoire de la convoitise qui engendre le péché qui produit la mort, et ici c'est la parole qui a été plantée parce que Dieu vous a engendré. Donc nous sommes toujours dans le même registre. Ici. Donc Jacques nous dit, Dieu nous a donné la vie et cette vie se vit. Et dans ce cadre, il y a des choses à être. Il faut être prompt, il faut être lent et lent. Et il y a des choses à faire. Il faut rejeter, il faut recevoir. Celui qui a été engendré de Dieu rejette et reçoit. Mais vous avez remarqué que les deux verbes sont à des temps différents. Rejetant, recevez, recevez. Il y a des temps différents. Et pour cette raison, certains voient une séquence ici. Vous rejetez, et parce que vous avez rejeté, ensuite vous recevrez. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de séquence chronologique ni de séquence logique dans ce sens-là. En outre, ce peut être dangereux car cela peut transformer l'action de rejeter dans une œuvre qui est méritoire, qui gagne quelque chose, qui gagne notamment le droit de recevoir. Non, cela est contre le message de l'Évangile. C'est plutôt une indication de la dynamique qui motive le croyant, de cette force qui le fait agir. On ne peut pas recevoir tout en gardant. Les mains sont déjà pleines, il n'y a plus de place. C'est un tout. Et la parole plantée en vous, en grandissant, elle aide à rejeter. Plus on reçoit la parole, plus on est en mesure de rejeter. Et c'est là qu'on a ces degrés de maturité dans l'Église. Ce ne sont pas des gens qui deviennent meilleurs. Non, ce sont simplement des gens qui deviennent plus mûrs, qui laissent la parole demeurer richement en eux. Et bien entendu, le tout jeune croyant, il a un zèle bouillonnant, mais il n'a pas ce poids. Mais cela va venir. Donc vous voyez, il n'y a pas il nous faut faire attention à éviter ces dangers de faire quelque chose qui tourne autour de moi, une fois encore. Non. C'est un tout. La parole plantée, quand elle grandit, en devenant plus familier avec la parole, alors elle aide à rejeter, parce qu'elle donne, elle donne une acuité, une force, une vivacité plus grande à la vue des yeux de la foi. Premier sous-point donc, rejeter, rejetant certaines choses. Que faut-il rejeter? Et ici, ce que Jacques dit est plus fondamental qu'il n'y paraît, simplement d'après les mots. Il parle de méchanceté. Et par cela, il signifie tous les élans de ce cœur naturel, rebelle et égocentrique. Tout cela, c'est méchanceté. En fait, il utilise un mot qui peut même s'utiliser pour les petits bêtises que les enfants font. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, déclare l'Écriture. Qui peut le connaître? C'est la parole qui le révèle, n'est-ce pas? Ici, Jacques montre comment il s'exprime ce cœur méchant. On peut rendre ses paroles de la manière suivante. Rejeter toute méchanceté qui souille et qui est si présente, si prévalente. Ce que le cœur naturel produit est toujours sale, parce que il est centré sur soi-même, car cela ne procède pas d'une source pure. Même chez le croyant, il y a encore ce principe qui doit être mis à mort, mais il est là. La source n'est pas pure, et donc tout ce que ce cœur naturel, ces élans naturels produisent, c'est toujours sale, et il faut les faire mourir. La souillure se situe à tous les niveaux, et elle tord l'ensemble de la vie, vécue selon la chair. Et le croyant est encore dans cette chair, il n'en est pas totalement libéré, d'où le combat qui se livre, et dont nous parle l'apôtre Paul dans Romains 7, n'est-ce pas? Il lui faut rejeter ce qui vient de sa chair et qui le souille, ce qui le pousse à être lent à écouter, ce qui le pousse à être prompt à parler, ce qui le pousse à être prompt à se mettre en colère. Il faut qu'il rejette cela. Rejetant toute souillure, ou plutôt toute cette méchanceté qui déborde en fait, qui est toujours là et qui souille. La phrase est difficile à rendre, mais c'est cela. Et on voit que c'est ce que Jacques enjoint à ses frères. Et cette méchanceté, mes amis, elle déborde. Il y en a à revendre. Si seulement on la laisse sans frein, elle occupera vite toute la place. Et si vous êtes passé par des temps de rétrogradation, des temps de passage à vide, comme on dit, au niveau spirituel, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Ici, elle cherche toute la place. Et le mot débordement, en fait, c'est très intéressant. Il a la même racine qu'un mot qui est utilisé lors de la multiplication des pains, ou plutôt après la multiplication des pains. Vous savez qu'il était resté des bouts de pain. Jésus a demandé aux apôtres, à ses apôtres, à ses disciples, de ramasser ce qui était laissé comme ça. Et ils en ont ramassé 12 panières. Et ils ont ramassé 12 panières de ce qui restait, le trop-plein, l'abondance, vous voyez. Eh bien, c'est la même racine ici, c'est la même racine. Celui que Dieu a engendré refuse de se laisser inonder par ce qui provient sans cesse de sa chair et qui est méchant. Il le rejette. Sinon, très rapidement, la chair, le principe de la chair va occuper toute la place et nous avons la situation qui se produisait dans les églises et à laquelle Jacques s'adresse. Rejeté. Mais il est aussi dit, recevez, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Bien sûr, rien que cette partie-là pourrait occuper plusieurs messages. Mais essayons déjà d'y réfléchir et puis gardons cela à l'esprit pour le ruminer. C'est l'autre face de la pièce de la nouvelle vie et recevoir la parole qui a été plantée en vous. La recevoir avec douceur. Ici, Jacques fait la liaison avec le verset 18. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est une nouvelle vie et cette nouvelle vie, elle se nourrit de la parole de vérité, cette parole qui a été plantée en nous. Et donc on voit, simplement un petit à côté, on voit que la vie chrétienne n'est pas simplement une acquisition de connaissances. Il y a cela, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et d'emblée, nous avons la question qui se pose à nous. Est-ce que la vie que je vis et que je dis être la vie chrétienne, est-ce que c'est une vie qui a été engendrée? Est-ce que c'est une vie qui vit? Est-ce que c'est une vie qui a été plantée en moi? Est-ce qu'il y a un avant et un après? C'est la question qui se pose. Parce que sinon, je peux même devenir simplement religieux en manipulant la vérité. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça peut être vrai. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous poser la question. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Est-ce que je suis engendré? Est-ce que je suis vivant pour Dieu? Vivant vis-à-vis de Dieu? Ou bien est-ce qu'il est simplement un des tiroirs ou un des compartiments dans ma vie? Et cette parole, il nous faut la recevoir. Il nous faut, en fait, lui faire bon accueil. Il n'y a pas de syndrome de rejet pour cela chez le croyant. La parole qui a été plantée en vous. Et si elle est plantée, mes amis, elle pousse ses racines. Est-ce que la parole pousse ses racines en vous? Alors je sais que vous allez dire, non, pas autant que je le voudrais, loin d'être parfait. Bien sûr, on ne parle pas de perfection ici. La seule chose qui est parfaite, c'est cette parole. La seule chose qui est parfaite, c'est le salut de Christ et bien entendu Dieu. Mais nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes encore dans ce monde hostile. Mais est-ce que la parole pousse ses racines? Et les racines d'une plante vont loin. Si vous cherchez à tuer une mauvaise herbe, vous savez comme quoi c'est difficile. Et simplement la tirer du sol ne fait rien. Pourquoi? Il y a toutes ces petites radicules qui vont loin, loin des fois par rapport à la taille de la plante. C'est ce que Jacques nous dit ici. Et c'est la question que la parole de Dieu nous pose. Il est clair qu'ici Jacques pense à ce que cette parole plantée produit dans la terre préparée et choisie de Dieu quand elle le reçoit. Vous rappelez cette image. Et il dit à ses frères, faites que cette parole qui est plantée en vous produise ce qui caractérise la vie que Dieu vous a donnée. Que ce ne soit pas quelque chose qui en fait donne de la paille, qui est sans vie. Non, ça n'est pas du foin. C'est alors que vous aurez le dégoût, l'énergie, le discernement nécessaire pour rejeter ce qui est méchant et qui provient de votre cœur naturel. Recevez avec douceur. Et ici, nous pensons bien entendu à cette parabole du semeur. La semence, elle est répandue partout. Et c'est une bonne semence. La semence qui tombe sur le chemin dur, elle est bonne. Le fait qu'elle ne prend pas racine ne vient pas de le manque de qualité de la semence. Cette année, j'ai utilisé des semences qui étaient trop vieilles. Alors, elles ne sont jamais sorties. Non, ça n'est pas le cas avec l'Évangile. C'est l'Évangile de Dieu qui est toujours jeune. Non, mais le problème, c'est dans la terre. Et qu'est-ce qui fait la différence avec la bonne terre et les autres terrains ? C'est que la semence est reçue. Alors, bien entendu, le caractère bon de la terre n'est pas intrinsèque à cette terre. Elle a été préparée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Mais la semence est reçue. Et ici, recevez cette parole qui est plantée en vous. Parce qu'il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Et donc, c'est important. Et on voit comme quoi Jacques nous présente ça. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur. Alors, il n'est pas en train de dire recevez avec mollesse. Non, il parle de recevoir avec douceur. C'est-à-dire, ne le faites pas comme des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, arrogants, autonomes. Ne le faites pas comme quelqu'un qui est prompt à parler, qui est lent à écouter. Non, voyez plutôt comment Dieu vous a béni. Il vous a tout donné. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vraie vie. Et voyez que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et maintenant, il vous donne sa parole. Il se révèle. Il vous révèle. Sans quoi, nous serions dans l'ignorance. Eh bien, recevez avec douceur. C'est une parole qui peut sauver vos âmes. Alors bien sûr, Jacques n'est pas en train de parler du salut dans le sens initial, puisqu'il écrit à des frères bien-aimés. Ce sont des gens qui sont sauvés, pour autant que la vie vit en eux. Mais cette parole et son action en vous et sa croissance en vous vous amènera, cette parole vous amènera à la consommation de votre salut, à ce jour où, laissant les choses de la terre, vous serez dans sa présence, vous serez comme lui. Pourquoi ? Parce que vous le verrez tel qu'il est, tel qu'il est. C'est cette parole qui le fait, et c'est cette parole qui peut sauver vos âmes, qui vous protège de ces élans de la chair, qui vous protège de ces choses qui luttent contre Dieu, ces convoitises, cette égocentrisme, ce fait d'être centré sur soi-même. Non, c'est cette parole qui vous conduira jusqu'à la consommation de votre salut. Vous vous demandez si vous allez parvenir jusqu'au bout, est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, parce qu'il y a tant de choses contre moi, il y a tant de choses en moi contre l'Évangile, surtout au vu de ces épreuves, surtout au vu de votre fragilité, de votre inconstance, est-ce que vous allez pouvoir tenir ? Par vous-même, c'est impossible. Absolument impossible. Le diable n'y vient jamais tenter le moindre d'entre nous, parce que le plus petit obstacle nous fait déjà trébucher. Non, par nous-mêmes, c'est impossible. Mais si vous êtes vraiment croyant, Dieu vous a engendré à une vie éternelle, une vie sans fin, une vie qui est le prémisse. Il vous a donc engendré en vue d'une nouvelle création. Et la création actuelle, elle vieillit à cause de l'injustice qui la serre dans ses griffes. Eh bien, cette nouvelle création, la justice régnera. Donc, c'est une vie éternelle. Et sa parole, la parole de Dieu, la parole de ce Dieu auquel vous êtes unis, la parole de ce Sauveur, vous amènera à passer par les portes éternelles. Oh, portes éternelles, élevez vos linteaux. Pourquoi ? Parce que le corps de Christ vient. Et c'est cette parole qui va vous apporter, vous amener jusque dans la gloire éternelle. Et c'est pourquoi, frères, c'est pourquoi, sœurs, soyez prompts à écouter. Soyez lents à parler. Soyez lents à vous mettre en colère, cette colère qui est en fait en dissonance avec la nature de Dieu. Rejetez ces choses qui viennent de vous et qui menacent de déborder si souvent, n'est-ce pas ? Et recevez cette parole. Oui, oui, on la reçoit avec douceur, mais pas mollesse. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Pour la recevoir, il y a une action, il faut la méditer, il faut y venir, il faut la garder en soi. Et surtout, il faut la vivre. La terre qui, quand vous mettez la plante en terre comme ça, et alors, il nous est dit qu'il faut bien serrer la terre autour, parce que la terre va agir sur les racines. Alors, la parole est plantée en vous, et que ce qui est en vous la reçoive. Voilà ce que Jacques dit. Il va continuer à montrer comment il faut le faire, mais nous garderons ça pour une autre fois. Déjà, passons du temps à méditer sur ces bonnes choses qu'il nous a dites. Et remercions le Seigneur qu'il continuellement, il éclaire notre âme, il éclaire notre intelligence, afin que nous puissions marcher selon sa volonté, en nouveauté de vie au milieu d'un monde qui se meurt. C'est vraiment un statut merveilleux que celui du croyant. Mes amis, vous tous qui m'écoutez, certains d'entre vous, très probablement, vous ne connaissez pas ces choses par expérience. Quoi que vous disiez, il me faut le dire. Eh bien, revenez à cette parole et laissez-la vous éclairer sur qui vous êtes vraiment et qui est Dieu vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait en Jésus-Christ ? Et approchez-vous de lui, simplement, car il est le Dieu donateur, celui qui donne sans reproche, abondamment, sans garder un pourcentage. Oh, qu'il soit béni et que sa grâce soit puissante en chacun d'entre nous. Amen.